Cette semaine, nos suppléments livres font le grand écart entre le monde de l'enfance et celui des adultes, voire des pires d'entre eux. D'un côté donc la BD, la bande dessinée, en une de l'UMA, du cahier Culture et Savoir, de Libé des livres, il faut noter que l'ensemble de Libé, comme chaque année, est entièrement illustré par des auteurs de BD, et le dossier du monde des livres qui est consacré. D'un autre côté, La Croix qui privilégie les découvertes françaises, et le Figaro littéraire qui s'interroge en une « Faut-il rééditer Mein Kampf ?». Nous laisserons de côté cette question pour nous concentrer cette semaine sur la bande dessinée. On le voit, le spectre est large et les pages de Libération, par exemple animées par Clémentine Gallo, Quentin Girard et Marius Chapuis, établissent un rapide bilan de l'édition dans ce domaine, au risque, comme chaque année, d'écraser un peu celle-ci en une seule livraison, comme ça arrive déjà avec la littérature jeunesse pour Montreuil. On notera en une de l'UMA également, enfin du cahier de l'UMA Culture et Savoir, la présence de l'éditeur Frémoc, alliance de Fréon et d'Amoc en 2002, ce collectif de militants regroupés pour la bibliodiversité, pionniers de l'exploration graphique et narrative de la BD contemporaine, nous dit Lucie Servin, édite notamment le sublime Paysage après la bataille d'Éric Lambé et Philippe Pierrepont. Le premier fait la une d'ailleurs en entretien du Libé Livre, toujours pour cet ouvrage au graphisme magnifique qui allie le panorama de la bataille de Waterloo avec l'histoire d'un deuil réel. Et donc le trait est épuré, il y a un peu de couleur, du noir et blanc, etc. Clémentine Gallo interroge l'auteur sur l'idée que la femme centrale et le personnage principal de ce livre est un personnage donc de femme mutique, souvent présentée de dos et sans visage. Pourquoi ? Lui demande-t-elle. En fait, répond-il, jusqu'au bout du livre, je me suis demandé qui elle était et donc quel visage elle pouvait avoir dans le réel. C'est peut-être ça un livre, chercher un visage, chercher une personne. Mais en définitive, il laisse les lecteurs se faire une image et ça ne marche pas si mal que ça. Un autre livre iconique de la rentrée des bandes dessinées d'une certaine manière, c'est le livre de Maïté Grandjean, Fantasma chez Magnani. Un jeune homme regarde sa voisine se déshabiller, situation assez sordide et assez ordinaire, mais une histoire étrange commence qui dépasse largement le cadre sordide du fantasme. Donc si la BD évolue vers l'univers onirique et artistique, elle peut également le faire avec la volonté d'éduquer, d'édifier. C'est le cas avec Big Kids de Michael Desforges, dans lequel un adolescent homo, plutôt du genre à s'écraser, dit Marius Chapuis toujours dans Libé, se transforme au lendemain d'une cuite, je cite toujours, il se transforme en quoi ? En arbre et voilà, voit le monde tel qu'il est réellement. Adam est une forme oblongue avec des branches en guise de bras et de jambes, il est rose et du feuillage orne ce qui le tenait lieu d'épaule. Michael Desforges propose une étrange allégorie graphique, confirme Anne Favalier, du monde des livres, pour évoquer entre malaise et émerveillement les émois du personnage et du passage à l'âge adulte et l'éveil d'une sensibilité. Du même coup, la bande dessinée traditionnelle et même les mangas prennent un sacré coup de vieux, à tel point qu'ils en deviennent des objets de musée, à l'image des planches de Kamimura, écrivain et scénariste et dessinateur de BD, disparu évidemment beaucoup trop tôt, en 1986, et dont Karine Janselme fait la recension pour la page Culture et Savoir, toujours de l'Humanité. Et même le roman graphique semble déjà un peu épuisé, comme on découvrira tout de même dans l'Humanité, qu'Angoulême rend hommage à Will Eisner, dont Alexandra Chéniaud nous dit qu'il est l'inventeur du roman graphique. Pas question ici, de super-héros ou de contre-culture, mais d'une nouvelle forme littéraire. Cet auteur qui a contribué à la naissance des comics à super-héros est aussi celui qui a contribué à en casser le mythe. Dans ce même supplément, on notera que Lucie Servin toujours nous ouvre à la culture Jones avec le premier volume du Hip Hop Family Tree publié aux éditions Papa Guédé. Ce roman graphique se présente comme un vieux Marvel Comics, nous dit la critique, mais il va bien au-delà. Ed Piskor compose ses planches en rap graphique en marquant le beat dans les cases en coulant le rythme des strips sur les chutes et les pirouettes de ses gags comme des rimes dans le flow d'un MC. Une BD performative, en somme, comme on disait dans la nouvelle critique autrefois. On le voit, l'univers de la BD est devenu de plus en plus riche ces dernières années.